7h18, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Alors là, comment dire ce matin, si vous aviez abandonné la consultation en ligne de vos placements, vous pouvez peut-être y retourner, parce que depuis le retour du congé des fêtes, disons que le marché est à la hausse.
Je le sens dans ta voix, Paul.
Oui.
Je sens que ça va mieux.
Oui, hein, ça va mieux.
Aussi.
Moins
aussi
stressé.
Retrouver le sourire.
Oui, oui.
Tu sais, t'as pas besoin d'avoir un café implicite chaque matin en regardant le TSX. 1000 points de gains sur le TSX depuis le début de l'année. Depuis Noël, c'est incroyable. Écoute, on était à 1370 points Noël. Après ça, à 13 780 points Noël. 14 300 au 31 décembre. On est à 15 534. En français, on a pris 11% depuis le 24 décembre, 7% depuis le début de l'année. Donc, si au Boxing Day, vous avez acheté 1000$ et vous avez dit « Ah! J'ai épargné, j'ai acheté une télé de 1000$. » Mais si vous aviez mis 1000$ dans l'indice canadien, vous auriez 110$ de plus dans votre pocket. C'est-tu beau, ça, Paul? Mais là, écoute, tu prends n'importe quel titre au hasard, là. Vraiment, là, garde-toi, là, vas-y, écoute. Netflix, 27%. Caterpillar, 7,5%. La Banque Royale, tu sais, pas un titre très, très dangereux, là. 6,7% depuis le 1er janvier. Dollarama, 9. Le groupe MTY, celui qui nous vend de la bouffe dans toutes les food courts du Québec, 13,7%. Même McDonald's, qui avait déjà pris de la valeur entre Noël et jour de l'an, 3%. Puis BCE avec Bell, 6,4. Je me sens comme dans un sketch de François Pérusse. Tout augmente, Paul, tout. Donc, si tu te dis... Hey, est-ce que j'aurais dû tout tirer mes billes à Noël? La réponse, c'est non. Quand les gens paniquent, il y a des gens qui font des bonnes affaires. Donc, la bourse est revenue un peu, à peu près au niveau du octobre. Là. Donc, on n'a pas encore les sommets
non.
de l'année passée. Mais quand même, tu sais, quand t'as perdu beaucoup, puis ça remonte, même si t'es négatif par rapport à l'été passé, ton cœur garde un sourire.
Il y a un espoir. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une correction à l'horizon?
Ben, c'est volatile. Moi, je te garantis, ça va redescendre, ça va remonter, ça va redescendre, ça va remonter. Mais quand je vous avais dit, l'effet janvier s'en vient, ben, comme de fait, ça, c'est comme l'effet gainé avec Jean Perron à 110%. Tu sais, il y a toujours l'effet janvier, donc on est content quand même. Là, je vois ça comme une petite fleur, hein. C'est comme dans le moins 30 qui fait dehors, là, s'il y avait une fleur du printemps qui poussait à travers la neige. On sait qu'il va y avoir d'autres bordées de neige, mais ça fait du bien.
T'es rendu poétique, c'est beau.
Oui, hein, c'est beau.
C'est touchant. Parlons de ces influenceurs qui, évidemment, tentent de conditionner nos achats, nos comportements, nos goûts, nos habitudes. Et là, tu poses une question ce matin. Est-ce que c'est un emploi, ça, être influenceur?
Oui, parce qu'il y a un débat, parce que Karine Saint-Michel sur Internet, une ancienne d'Occupation Double, dit « Je fais juste 22 000 par année comme influenceur, donc arrêtez de penser que je suis riche, c'est difficile d'être influenceur. » Ben écoute... Est-ce qu'être influenceur, c'est un travail? Je vais vous répondre techniquement oui. Parce que c'est un peu comme les mannequins d'une autre époque ou les acteurs dans les pubs. Ils mettent en scène leur propre vie pour se vendre. Comme dans Truman Show, comme dans Louis XIX, le fameux grand film québécois. Et ils passent leur journée à prendre des photos, s'orienter, être directeur artistique, se mettre en scène, sélectionner des angles, faire du montage. Donc, c'est une job à temps plein. Mais pourquoi c'est un travail plus ou moins bien rémunéré? Ben, c'est la nature du travail. Parce que c'est tous les gens qui peuvent être influenceurs. Il suffit de te lancer sur le web et tenter de l'être. Mais c'est une question d'offre et de demande. Ceux qui sont plus en demande font de l'argent. Mais il y a plein d'autres questions. Quand t'es influenceur, tu peux pas accepter 1000 contrats parce que tu peux pas être un homme sandwich. Faut que tu fasses des choix. Tu sais, t'acceptes que Marie-Pierre Morin te vende du McDo, des lunettes puis de la lingerie. Mais il y a une limite au nombre de commanditaires que t'es prête comme follower ou comme abonné à accepter et que les commanditaires sont prêts à te donner. Donc, il y a une limite de ça. Et en plus, on parle pas des agences, parce que quand tu es un influenceur en quête de pouvoir et de valeur marchande, il y a des agences qui te veulent, mais ils te chargent une cote. Et dès que tu commences à être moins bon ou pas rentable, on te laisse comme une vieille guenille, tu sais. Donc, tu es vraiment remplaçable facilement. Je te donne un exemple. Celle qui est sortie dans les médias, elle a seulement, entre guillemets, 113 000 abonnés sur Instagram. C'est énorme. Tu sais, c'est 113 000 Karine Saint-Michel. Mais elle dit, je fais pas d'argent tant que ça. Attention. Un influenceur a une mauvaise, parfois, perception de sa réalité financière. Parce que quand t'as 22 000 dans tes poches, est-ce que c'est ton chiffre d'affaires? Est-ce que c'est net d'impôts? Qu'est-ce qui est de la dépense pour des fins personnelles et des fins d'affaires? Et d'ailleurs, Paul, le fisc a tout un job avec les influenceurs. Parce que mets-toi à la place du fisc. Mmh. D'un côté, elle te dit, j'ai dépensé 1000$ pour aller dans le sud. Ouais, mais c'était pour aller prendre des photos pour promouvoir ma carrière. Donc, c'est une dépense d'entreprise. D'un autre côté, elle va au restaurant gratuitement 30 fois dans l'année à 100$. Ah, c'est pas de la rémunération, ça. C'est de l'échange de services pour ma visibilité. Donc, techniquement, mettons que tu es un influenceur, puis que tu vends ta visibilité contre 3 000$ de restauration dans l'année, tu serais techniquement supposé de t'imposer sur le 3 000$ de restauration. Si tu as une voiture gratuitement toute l'année, tu es supposé recevoir un avantage imposable, une espèce de d'avantage de ton client qui t'a payé implicitement en nature automobile. Donc, tout ça fait en sorte que ça va créer une nouvelle réalité pour le fisc. Qu'est-ce qui est à des fins personnelles? Qu'est-ce qui est à des fins d'affaires? Parce que l'influenceur va dire, toutes mes dépenses personnelles, c'est à fin d'affaires. Chaque fois que je prends une photo, ça fait monter ma valeur marchande. Mais oui, mais c'est vrai. Mais imagine, c'est quoi qui est difficile de dire, je suis en train de prendre une photo avec des amis au tel restaurant. Là, tu te dis, OK. Là, le restaurant devient-tu déductible pour fin d'affaires? Parce que dans le fond, c'est pour se mettre en scène. C'est une dépense d'emploi. C'est un frais de représentation. Donc, il n'y a pas de fin. Ça va être très intéressant à suivre au cours des prochaines années au niveau fiscal.
Merci, monsieur. Bonne journée.
Salut.
Salut. 7h24.